La réunion démarra pile à 6 heures du matin. Ils commencèrent par le tableau. Ils avaient le suspect A, Monsieur Jason Jones, lien, époux. Ils avaient le suspect B, Aidan Brewster, lien, délinquant sexuel fiché, domicilié dans la même rue. À partir de là, ils examinèrent brièvement la question des moyens, des mobiles et des occasions. La case des moyens fut laissée vide car elle manquait d'informations sur ce qui était arrivé au juste à Sandra Jones. Avait-elle été tuée, kidnappée, s'était-elle enfuie? Il n'était jamais bon de faire des suppositions à un stade aussi précoce de l'enquête, donc ils passèrent à la question suivante. Jones pouvait gagner des millions de dollars qu'il aurait risqué de les perdre s'il divorçait, ainsi que la garde de sa fille. Brewster était un prédateur sexuel connu et avait peut-être obéi à des instincts qui couvaient depuis longtemps. L'occasion. Jones avait un alibi pour la nuit et l'heure en question, mais il n'était guère solide. Brewster, aucun alibi. Mais était-il possible d'établir un lien entre Brewster et Sandra Jones? Pour l'instant, aucun message téléphonique, courriel ni texto ne rapprochait ces deux individus. Mais la géographie jouait tout de même dans le sens de la police. Le suspect et la victime ne vivaient qu'à 5 maisons l'un de l'autre. Un jury pourrait raisonnablement supposer que Brewster et sa victime se connaissaient à un titre quelconque. Et puis il y avait la question du garage où travaillait Brewster. Peut-être Sandra Jones y faisait-elle entretenir sa voiture. Ils avaient l'intention de se renseigner dès la première heure. Ils passèrent aux personnalités. Jones, journaliste indépendant, était un père dévoué qui avait épousé une très jeune femme enceinte et l'avait transplantée d'Atlanta à South Boston. Il possédait plusieurs millions de capitaux d'origine inconnue. Le capitaine Miller et le commandant Warren le jugeaient peu coopératif, ce qui ne plaidait pas pour lui. Il semblait aussi obsédé par les verrous et autres portes métalliques. Brewster, de son côté, avait été condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 14 ans. Il occupait le même emploi depuis 2 ans, vivait à la même adresse. Sa conseillère d'insertion l'appréciait et les avait rappelés à 9 heures du soir pour leur signaler qu'elle n'avait rien vu de suspect chez lui. Bon point pour lui, donc. La victime elle-même n'était pas jugée à risque. Mère dévouée et enseignante depuis peu, elle n'avait aucun antécédent de drogue, d'alcoolisme ou de dépravation. Le principal du collège la décrivait comme ponctuelle, fiable et consciencieuse. Le mari affirmait qu'elle n'aurait jamais délibérément quitté sa fille. Envers de la médaille, la victime était jeune, habitait dans une ville qui lui était relativement inconnue et semblait manquer d'un réseau d'amis proches et ou de parents. Ils avaient donc affaire à une jolie maman d'une 20aine d'années, en proie à un certain isolement social et qui passait la plupart de ses soirées seule avec sa fillette. La scène du crime. Aucun signe d'effraction, ni éclaboussure de sang, ni trace de violence manifeste. Ils avaient une lampe cassée dans la grande chambre, mais aucune preuve qu'elle avait servi d'arme ou qu'elle avait été brisée au cours d'une lutte. Un édredon vert et bleu qui recouvrait auparavant le grand lit, mais que quelqu'un avait mis dans la machine à laver avec une chemise de nuit violette. Le sac à main de l'épouse. Son téléphone portable, ses clés de voiture et sa voiture, tous retrouvés sur les lieux. Aucune disparition de vêtements, bijoux ou bagages. La voiture du mari avait été fouillée sans résultat. La police scientifique se penchait en ce moment même sur les poubelles de la famille. Le centre d'expertise informatique de Boston adorerait se pencher sur l'ordinateur familial. Au dernier moment, Didi ajouta « Disparition d'un chat orange ». Elle s'écarta du tableau blanc que tous étudièrent. Personne n'ayant rien de nouveau à ajouter, elle reboucha son feutre et se tourna vers le commissaire divisionnaire de la brigade criminelle. « Sandra Jones a disparu depuis maintenant plus de 24 heures », conclut Didi. On ne l'a retrouvée dans aucun hôpital ni morgue de la région, pas non plus d'opération sur ses cartes de crédit ou comptes en banque pendant ce laps de temps. Nous avons fouillé sa maison, son jardin, les 2 voitures et le quartier. À l'heure qu'il est, nous n'avons pas la moindre idée de l'endroit où elle se trouve. Téléphone portable, bougonna le divisionnaire Clémenté. Nous sommes en relation avec son opérateur pour obtenir un journal complet de tous les messages vocaux et textos effacés, ainsi qu'une liste de tous les appels passés ou reçus. Ces dernières 24 heures, les appels sur son portable ont essentiellement concerné son emploi d'enseignante, des collègues ou des élèves qui voulaient savoir où elle se trouvait. Courrier électronique, lança Clémenté. Hier, nous avons essayé sans succès d'obtenir un mandat pour saisir l'ordinateur familial. D'après la juge, Sandra Jones n'avait pas disparu depuis assez longtemps. Nous allons réitérer notre demande ce matin, maintenant que nous avons passé le cap des 24 heures de disparition. Votre stratégie ? Didi prit une grande inspiration, jeta un regard vers le capitaine Miller. Ils y travaillaient depuis 5 heures du matin, s'étant retrouvés après quelques petites heures de sommeil cruellement nécessaires. Franchir le cap des 24 heures était à la fois la pire et la meilleure chose qui pouvait leur arriver. D'un côté, ils étaient officiellement en mesure d'ouvrir une enquête sur Sandra Jones. De l'autre, la probabilité de retrouver la surnommée venait de chuter de moitié. Avant, ils disposaient d'une fenêtre de tir. À présent, il s'agissait d'une course contre la montre, car chaque minute qui passait rendait davantage la disparition de Sandra Jones synonyme de mauvaise nouvelle. Il fallait qu'il la retrouve dans les 12 heures à venir, sinon il risquait d'avoir à déterrer un cadavre. « Il nous semble que nous avons 2 axes de travail logiques », expliqua Didi. « Premièrement, nous pensons que l'enfant, Clarissa Jones, détient peut-être des informations sur ce qui s'est passé chez elle cette nuit-là. Il faut que nous obligions Jason Jones à donner son consentement à une audition afin d'établir quels détails Clarissa pourrait fournir. Comment vous allez vous y prendre ? On va lui dire que soit il nous laisse interroger Clarissa, soit on déclare la maison scène de crime et on les met dehors, lui et Clarissa. Nous pensons que pour conserver un environnement stable à sa fille, il acceptera l'audition. » Clémenté la regarda. Pas s'il pense qu'elle pourrait donner des renseignements le compromettant. Dans un cas comme dans l'autre, ça nous fournira des informations que nous n'avions pas. Clémenté examina cette réponse. Accordé. 2e axe de travail. Elle prit à nouveau une profonde inspiration. Étant donné que nous n'avons pas de piste à l'heure qu'il est, il va falloir procéder à un appel à témoins. 24 heures se sont écoulées, nous ne savons pas ce qu'est devenue Sandra Jones. Ce que nous avons de mieux à faire, c'est d'impliquer la population. Et dans ce but, nous voudrions mettre en place une cellule de crise officielle pour répondre à la multitude de demandes qui nous seront adressées. Il faudrait collaborer avec les autres forces de l'ordre afin d'identifier des chefs d'équipe de recherche sur place et les autres pistes à creuser. Enfin, on tiendrait une conférence de presse à 9h ce matin pour diffuser les photos de Sandra Jones et un numéro d'urgence à appeler pour donner des informations. Il est bien sûr possible qu'une affaire de cette nature attire immédiatement l'attention des médias nationaux, mais d'un autre côté, ça pourrait nous aider dans notre enquête. Clémenté la regarda d'un air sceptique. Didi quitta son attitude protocolaire le temps d'argumenter avec philosophie. « Écoutez, Chuck, les médias auront vent de cette histoire à un moment ou à un autre. Autant faire ça à nos conditions. » Clémenté soupira, prit la chemise cartonnée qui se trouvait devant lui, la tapota plusieurs fois sur la table. Les chaînes du câble vont adorer. Il va nous falloir un responsable des relations publiques qui soit bien sur le coup, commenta Didi. 80% des soi-disant renseignements viendront d'hommes seuls qui se promènent avec des chapeaux en aluminium pour éviter de se faire enlever par les extraterrestres. Ça fait un moment qu'on n'a plus de leurs nouvelles, répondit Didi sans se départir de son sérieux. On pourrait peut-être affecter un 2e agent à la mise à jour de leurs coordonnées. Clémenté pouffa. Comme si j'avais le budget et comme s'ils risquaient un jour de quitter le sous-sol de leur maman, conclut-il en prenant son dossier à deux mains. La presse va vous interroger sur le mari, que comptez-vous répondre ? Aucune piste n'est écartée. Ils vont demander s'il coopère. C'est pour ça que je vais l'appeler à 8h30 pour lui suggérer de nous laisser auditionner sa fille, histoire que je puisse répondre oui à cette question et lui épargner quelques soucis. Et le délinquant sexuel ? Didi hésita. Aucune piste n'est écartée. Clémenté opina du chef avec componction. C'est bien. Je ne veux pas apprendre que vous avez dévié d'un pouce de cette stratégie. La dernière chose dont nous ayons besoin, c'est une fuite sur le fait que nous avons 2 suspects tout aussi viables l'un que l'autre. Avant qu'on ait eu le temps de dire ouf, ils s'accuseraient mutuellement et un bon avocat de la défense s'en saisirait tout de suite pour créer un doute raisonnable. Didi approuva, sans juger bon de signaler que Jason Jones s'était déjà engagé dans cette voie. C'était bien le problème quand on enquêtait sur 2 suspects et c'était pour cette raison qu'ils avaient tout écrit sur un tableau blanc effaçable plutôt que dans un rapport officiel. Parce qu'après une arrestation, tous les rapports de police étaient susceptibles d'être communiqués à l'avocat de la défense qui pouvait ensuite présenter au juré le suspect B comme le véritable cerveau de l'affaire. Et voilà, une dose de doute raisonnable, instillée grâce à la propre enquête approfondie de l'enquêteur consciencieux. Tel était parfois pris qui croyait prendre. Conférence de presse à 9h, vous dites ? Conclut Clémenté en consultant sa montre et en se levant. Vaudrait mieux vous bouger ? Il tassa le dossier une dernière fois, tel un juge qui ajourne un procès, puis il sortit pendant que Didi et Miller, enfin officiellement autorisés à former une cellule de crise et à faire pression sur un suspect, se hâtaient de se mettre au travail. Le téléphone sonna peu après 8 heures du matin. Jason tourna légèrement la tête, le regarda sonner à l'autre bout de la pièce sur la petite table près de la fenêtre. Il aurait dû se lever, répondre. Il ne trouvait pas l'énergie de bouger. Rhee était assise à ses pieds sur le tapis, un bol de Cheerios à moitié mangé devant elle, les yeux rivés sur la télé. Elle regardait le jardin des rêves, qui faisait suite à Clifford le gros chien rouge et Petit Potam. Elle n'avait jamais eu le droit de regarder autant la télé que depuis 24 heures. La veille au soir, la promesse d'un film l'avait enthousiasmée. Ce matin, elle avait simplement les yeux aussi vitreux que lui. Elle n'était pas venue en sautillant dans le couloir à 6h30 pour se jeter sur sa silhouette endormie et crier, avec l'allégresse d'une enfant de 4 ans, « Debout, 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 debout! Papa, on se réveille !» Non. En entrant dans sa chambre à 7h, il l'avait trouvée allongée, les yeux grands ouverts dans son lit, à regarder fixement le plafond comme si elle mémorisait l'emplacement des oiseaux et des papillons qui volaient au-dessus d'elle. Il avait ouvert ses stores sur une nouvelle journée de mars glacial, préparé sa robe de chambre rose en laine polaire. Elle était sortie du lit sans mot dire, avait pris la robe de chambre, trouvé ses chaussons et l'avait suivie en bas. Les céréales avaient fait un raffut inhabituel en se déversant de la boîte. Le lait avait fait un boucan d'enfer en s'écoulant dans le bol à motif de Marguerite. Il s'était demandé s'il survivrait au bruit des couverts, mais ils y étaient mystérieusement parvenus. Elle avait emporté son bol dans le séjour et allumé la télé sans même demander la permission, comme si elle avait su qu'il ne la lui refuserait pas. Et il ne la lui avait pas refusée. Il n'avait pas eu le cœur de lui dire « On s'assoit au bar, jeune fille. La télé va te ramollir le cerveau, Minette. » Le ramollissement du cerveau semblait en quelque sorte un problème mineur en comparaison de ce qu'il devait affronter ce matin. Le deuxième jour sans Sandra. Le deuxième jour sans la maman de Rhee et sans son épouse. Une femme qui, 36 heures plus tôt, avait délibérément purgé son compte internet. Une femme qui les avait peut-être quittés. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois-ci, Rhee se retourna vers lui, le regard légèrement accusateur. Comme si, en tant qu'adulte, il devrait se montrer plus raisonnable. Il s'extirpa donc enfin du canapé et se dirigea vers le téléphone. C'était le commandant Warren, évidemment. « Bonjour, monsieur Jones. »« Pas vraiment, » répondit-il. « J'espère que vous avez bien travaillé cette nuit. »« J'ai fait ce que j'ai à faire. »« Comment va votre fille ce matin ? » ?»« Avez-vous retrouvé ma femme, commandant ?»« Non. Alors allons droit au but. » Il l'entendit prendre une grande inspiration. « Bon, comme plus de 24 heures se sont écoulées, il faut que vous sachiez que votre femme a été officiellement portée disparue. »« Elle en a de la chance, » murmura-t-il. « En un sens, oui. Désormais, nous pouvons ouvrir une enquête et mettre plus de moyens en œuvre, notamment en tenant une conférence de presse à 9 heures pour annoncer sa disparition. » Il se raidit, sentit ses mots l'atteindre entre les deux yeux, un coup vif, cinglant. Il ouvrit la bouche pour protester, mais se retint. Il se pinça l'arrêt du nez et fit comme si ce n'était pas des larmes qui lui brûlaient les yeux. « D'accord, » dit-il posément. « Il fallait qu'il commence à passer des coups de fil, » réalisa-t-il, « qu'il prenne un avocat, qu'il s'organise pour lui. » Il cala plus fermement le sans-fil entre son épaule et son oreille et passa dans la cuisine, loin de son enfant à Louis Fine. Il ouvrit le réfrigérateur, se trouva nez à nez avec le précieux docteur Pepper de Sandra et referma la porte. « Évidemment, expliquait le commandant Warren, ce serait parfait si vous étiez vous-même disponible pour lancer un appel à la population, pour personnaliser l'affaire, tout ça. Nous pourrions tenir la conférence dans votre jardin. Rhee et vous-même pourriez être tous les deux présents, » conclut-elle sur un mode badin. « Non, merci. »« Non, merci, » reprit-elle avec une stupéfaction qu'ils savaient tous les deux feinte. « Je me soucie en priorité de ma fille. Je ne crois pas que la mêlée à un cirque médiatique soit dans son intérêt. » Je pense également que voir des journalistes se promener dans notre jardin et s'ingérer dans notre vie privée serait très traumatisant pour elle. Par conséquent, je crois que le mieux est que je reste à la maison pour la préparer à ce qui va se passer. « Et que croyez-vous qu'il va se passer ?» demanda le commandant Warren, jouant manifestement au chat et à la souris avec lui. « Vous allez diffuser la photo de ma femme à la télé et dans les journaux. On en fera des photocopies qui seront distribuées et placardées dans toute la ville. Des battues seront organisées. » Des gens du collège Sandy se porteront volontaires. Les voisins passeront nous proposer de bons petits plats tout en espérant découvrir les dessous de l'affaire. Vous nous demanderez des vêtements pour les équipes cynophiles. Des cheveux pour pratiquer des tests ADN au cas où vous retrouveriez des restes humains. Une photo de famille, parce que les médias préféreront ça à une photo où Sandy apparaît seule. Ensuite, les camionnettes des médias s'installeront devant chez moi avec des projecteurs qui s'allumeront tous les jours à 4 heures du matin. Et vous serez obligé de dépêcher des agents uniquement pour contenir les foules hors de ma propriété, à la limite de laquelle elles camperont 18 heures sur 24, en hurlant des questions et en espérant que je vais par miracle sortir pour y répondre. Si je suis mon propre parole, tout ce que je dirai pourra être et sera utilisé contre moi au cours d'un procès. D'un autre côté, si j'engage un avocat pour qu'il me représente, j'aurai l'air de cacher quelque chose. On organisera un mémorial dans mon jardin. Les gens déposeront des fleurs, des messages, des ours en peluche, tout cela à l'intention de Sandy. Ensuite, il y aura l'éveil à la bougie où de bonnes âmes prieront pour le retour de Sandra. Il y a tout à parier que quelques médiums proposeront aussi leurs services. Et puis, il y aura les jeunes femmes qui m'enverront leurs condoléances parce qu'elles trouvent un charme tout particulier au père célibataire, surtout s'il se peut que j'aie agressé ma femme. Il va de soi que je déclinerai leurs offres de garde d'enfants gratuites. Il y eut un long silence. Vous semblez bien savoir comment ça se passe, constata Didi. Je travaille dans les médias, évidemment que je sais comment ça se passe. C'est comme une danse, songea-t-il distraitement. Il se représenta le commandant Didi Warren, qui virevoltait autour de lui en robe de flamenco rose indien, pendant qu'il se tenait là, tout de noir vêtu, en s'efforçant de paraître fort et stoïque, alors qu'en réalité il ignorait tout bonnement les pas. « Maintenant que l'enquête prend de l'ampleur, expliquait Warren, il est bien sûr capital de fournir le plus d'informations possible et le plus vite possible à la cellule de recherche. Vous comprenez bien qu'à chaque heure qui passe, les chances de retrouver votre femme diminuent de manière significative. Je comprends que le fait de ne pas l'avoir retrouvée hier signifie très probablement que nous ne la retrouverons jamais. Autre chose que vous voudriez ajouter ? Demanda le commandant Warren d'une voix posée. « Non, madame, » répondit-il avant de le regretter aussitôt. Il avait perçu cet accent du sud qui s'était subrepticement glissé dans sa phrase, comme c'était toujours le cas lorsqu'il employait des expressions de chez lui. Le commandant Warren resta silencieux un instant. Il se demanda si cela signifiait qu'elle aussi avait surpris cette inflexion ensoleillée. « Je vais être franche, » dit-elle soudain. Il en doutait fort, mais ne crut pas nécessaire de le dire. Il est extrêmement important que nous interrogions Ree. Le temps joue contre nous, Monsieur Jones, et il se peut que votre fille soit le seul témoin de ce qui est arrivé à votre femme. Je sais. Alors il va de soi que vous accepterez de rencontrer une spécialiste des auditions de mineurs à 10 h ce matin. Elle s'appelle Marianne Jackson, elle est excellente. D'accord. Un silence de mort s'ensuivit. Vous acceptez ? Oui. Il entendit un long soupir, puis presque comme si le commandant Warren ne pouvait pas se retenir. « Monsieur Jones, nous vous avons posé la question hier et vous avez refusé. Pourquoi ce revirement ?»« Parce que je suis inquiet pour elle. »« Pour votre femme ?»« Non, pour ma fille. Je crois qu'elle ne va pas très bien. Peut-être que parler avec une professionnelle l'aidera. Je ne suis pas exactement un monstre, commandant, et j'ai vraiment à cœur de protéger ses intérêts. » »« Nous disons donc 10 h dans nos locaux ?»« Mieux vaut un terrain neutre. » « Papa, vous prêchez un convaincu, » dit-il dans le combiné. Puis il se retourna et découvrit Ree dans l'entrée. Elle le regardait avec cet instinct qui indique infailliblement aux enfants qu'on est en train de parler d'eux. « Nous allons parler avec une gentille dame ce matin, » expliqua-t-il en éloignant le combiné de sa bouche. « Ne t'inquiète pas, mon cœur, tout ira bien. »« Il y a du bruit à la porte, papa. »« Quoi ? Il y a du bruit à la porte, tu n'entends pas ?» Alors il entendit. Un frottement, un grattement, comme quelqu'un qui essaierait d'entrer. « Je dois y aller, » dit-il à l'enquêtrice. Puis, sans attendre la réponse de Didi, il raccrocha brutalement. « Dans le salon. Tout de suite, chérie. Je ne plaisante pas. » Il fit signe à Ree de s'asseoir par terre à côté du canapé et s'interposa entre elle et la pesante porte d'entrée métallique. Il entendit encore des grattements et se plaqua contre le mur près de la fenêtre en s'efforçant de ne pas avoir l'air inquiet alors qu'il avait les nerfs à vif. La première chose qu'il remarqua en jetant un œil dehors, c'était que la voiture de police banalisée était toujours garée le long du trottoir. L'agent en faction semblait boire son café du matin d'un air placide. Ensuite, Jason remarqua qu'il ne détectait par la fenêtre aucune présence humaine. Mais il entendit à nouveau le bruit, un frottement, un grattement, et ensuite... Ree se leva d'un bond. Ree se précipita à la porte. Elle agit plus vite qu'elle n'aurait pu l'imaginer, attrapa frénétiquement le bouton de porte avec ses petits doigts et tira, tira, tira pendant qu'il ouvrait tardivement les verrous. Ensemble, ils y arrivèrent. Rhee ouvrit tout grand la porte et Mr. Smith entra avec majesté dans la maison. Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Smith! Rhee enlaça l'animal cuivré et le serra si fort que Mr. Smith émit un miaulement de protestation. Puis, tout aussi vite, elle le lâcha, se jeta par terre et éclata en sanglots. « Mais je veux maman !» gémit-elle plaintivement. « Je veux maman !» Jason s'assit par terre, prenant sa fille sur ses genoux, il caressa ses boucles brunes et l'étreignit pendant qu'elle pleurait.